Bon, alors, tel que prévu, tel que convenu, on accueille Hélène Lequitte au bout du fil. On revient pour cette dernière et deuxième et dernière partie de notre revue de presse de l'année sur ce qui a retenu notre attention pour les nouvelles régionales, l'actualité régionale en 2021. Alors, hier, on a parlé d'environnement, de COVID-19, de non-vaccinés, de pénurie de médecins en région et de restrictions budgétaires pour les petites municipalités. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée. Alors, Hélène, bonjour, ça va bien?
Oui, bonjour Gisèle, ça va bien, merci. Alors, c'est vrai que pour cette deuxième partie, il est important de parler, je pense, du potentiel économique du Nord-Ouest et plus particulièrement du chanvre. Alors, oui, la province française connaît des aléas économiques depuis la crise du pétrole. Mais l'industrie du chanvre cherche vraiment à faire sa place au soleil et on espère bien que 2022, ce sera son année. Alors à l'heure de la transition économique et de la COP26 qui s'est tenue en novembre dernier, il faut vraiment, Gisèle, encourager les agriculteurs de la région à le cultiver car le potentiel est là. Et d'ailleurs, c'est Diane Chiasson, la représentante de développement économique aussi du côté de Smoky River, qui en a parlé et on va l'écouter tout de suite.
Les longues journées. Plus de soleil dehors, plus il pousse. Il pousse. Au mois de juillet, ça peut pousser jusqu'à 6 pouces par jour. C'est nos longues journées puis nos nuits fraîches. C'est propice pour la fibre de chanvre.
Voilà, alors le climat, l'environnement dans le nord-ouest de l'Alberta est propice à la fibre de chanvre et ça a de l'avenir, mais il faut travailler avec les agriculteurs pour leur démontrer l'intérêt économique et on va réécouter Mme Chiasson à ce sujet.
OK.
Pour les fermiers, ça leur donne une nouvelle culture de rotation qui est aussi payante que n'importe quelle rotation crop qu'ils ont présentement. Les prix des grains a augmenté énormément dans la dernière année. Et c'est sûr que ça emmène Charles de surplus parce que là, il faut compétitionner avec des gros prix. Il y a des très bons avantages de faire de la culture du chanvre pour ton terrain. Ça capture beaucoup de CO2. Si tu fais des matériaux de construction avec le chanvre que tu as fait pousser, le CO2, à la minute que ton produit est fait, il ne s'échappe pas. Si tu prends une forêt, la forêt, elle absorbe du CO2. Mais quand tu la coupes, elle relâche ce CO2-là de nouveau.
Voilà, alors on a entendu ce serait vraiment bénéfique ou intéressant vraiment pour les agriculteurs de la région. Et qu'est-ce qui manque, Gisèle? 3000 acres seraient nécessaires pour l'expansion de cette industrie. Il y a une entreprise qui s'appelle Smoky Hemp Decortication qui travaille sur un procédé bien particulier pour séparer justement la paille du chanvre en trois composants différents afin de produire la fameuse fibre de chanvre et développer une économie de marché. Alors avec la loi sur la carboneutralité, le chanvre pourrait remplacer le plastique ou encore la fibre de verre et lutter contre les gaz à effet de serre. Alors cependant, certains a priori restent encore ancrés dans les esprits des agriculteurs, car investir dans un domaine alors que le prix du grain reste élevé et que les étés, on le sait, sont secs, cela peut sembler risqué sur le court terme. Mais qu'en est-il sur le long terme? En tout cas, moi, j'espère vraiment que pour l'économie de la région, cette usine de défibrage de chanvre se construira rapidement. Et ce serait... toi, justement, Gisèle, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est ça, mais je pense que... les agriculteurs, c'est des gens traditionnels, les agriculteurs de notre région. Alors, c'est difficile de les convaincre des fois d'investir dans de nouvelles cultures. Moi, je pense à l'exemple du pois... Ça a pris plusieurs années avant qu'il y avait juste certains agriculteurs qui s'étaient lancés dans cette culture-là. Et puis, de plus en plus, on voit apparaître, là, il y a des champs de pois un peu partout dans la région. Alors, je pense que ça va être un travail assez de longue haleine. Mais il y a beaucoup de gens là, qui sont intéressés, mais notamment M. Boulay qui a laissé sa place, qui a pris sa retraite de la municipalité rurale de Smoky River tout récemment et qui parle justement de se joindre au bureau de direction de cette entreprise. entreprise-là de décortication de chanvre qui, lui, en a cultivé cette année de ce produit-là. Et puis, j'en ai parlé aussi là, de ce projet-là ce matin, justement, avec une nouvelle qui nous provenait là, de la ville de McLellan. La ville de McLellan qui a investi plus de 14 000 $ dans le projet, dans les projets là, de Smoky River Economic Development. Alors, je pense qu'il y a quand même un appui au niveau régional. Et puis aussi, on se le cachera pas, ce plan de chanvre-là, il peut servir à des agriculteurs bien en dehors, bien en deçà là, des limites de la municipalité de Smoky River. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Et puis, bien sûr, on pourrait en parler avec Dan Williams, qui est le MLA de Peace River, qui n'est pas le MLA pour ici, pour Smoky River, mais quand même, il y aurait sûrement de l'intérêt parce qu'il représente l'autre grande région, dans l'autre grande municipalité dans la région de Rivière-la-Paix, où il y a beaucoup, une forte présence d'agriculteurs. Alors, c'est ça. Donc, M. Dan Williams, qui est le nouveau secrétaire parlementaire pour la francophonie à qui j'ai parlé il y a quelques semaines. Alors, c'était une petite entrevue d'introduction que j'ai fait avec lui. Là, c'était très convivial. Monsieur Williams, je le connais depuis quelques années déjà. Je l'ai rencontré la première fois lorsqu'il faisait campagne dans la circonscription de Peace River il était candidat pour devenir MLA, il était candidat pour le Parti des conservateurs unis, bien sûr. Et puis, c'est ça, on a donc on entretient des relations professionnelles depuis quelques temps déjà. J'avais aussi eu l'occasion de lui faire visiter le musée de Saint-Isidore. Alors, il a bien retenu la leçon lorsqu'on a discuté. Il est revenu sur le fait qu'il y avait des francophones sur le territoire de la région de Rivière-la-Paix depuis les débuts de la traite des fourrures, de l'information que je lui avais transmise. Alors, c'est un homme qui est quand même relativement ouvert à la francophonie. C'est quelqu'un qui a étudié en immersion française. Donc, je vais passer le petit extrait de l'entretien que j'ai fait auprès de M. Williams le 1er décembre dernier, où je discute avec lui et où il nous parle un peu de son rôle et puis de sa relation avec les francophones, avec la francophonie albertaine. Alors, on écoute ça.
Je pense que le message, c'est que ce gouvernement pense que la francophonie ici en Alberta, c'est une partie importante d'Alberta, une partie de notre province qui a travaillé tellement fort pour être une partie de notre province et qui sont fiers d'être albertains. Et je veux travailler pour eux et avec eux pour représenter la francophonie. Moi, je ne suis pas francophone de langue maternelle. J'ai appris le français dans un programme d'immersion ici à Alberta. Alors, d'une manière à parler, je suis un francophone par choix, pas par naissance. Mais quand même, j'aime être francophone. Je suis fier d'être francophone avec vous, même si je débrouille et je parle du croche.
Alors, c'était M. Williams là, qui discutait avec nous. Et puis, moi, quand je lui ai parlé, il venait tout juste d'aller à la rencontre du conseil scolaire du Nord-Ouest, qui a approché M. Williams sur plusieurs questions. Moi, j'ai bien l'intention de profiter là, de sa nomination en tant que secrétaire parlementaire à la francophonie pour pousser un peu la radio, les grands enjeux là, qui touchent la francophonie locale. Et puis, c'est quand même une bonne nouvelle que ce soit quelqu'un, un représentant du nord de la province. Souvent, on se sent un peu moins bien représenté en tant que francophone dans les issus des régions plus rurales, plus éloignées. Et puis, c'est quelqu'un qui, même s'il vient de Calgary, habite dans la région là, de la Crête depuis quelques années déjà. et qui reconnaît les enjeux auxquels font face les communautés rurales, qu'elles soient francophones ou pas. Alors, c'est de bonnes nouvelles d'avoir cette nomination-là.
C'est une super opportunité, hein?
Oui. Fait que c'est ça. Donc, mais aussi, on a eu aussi des élections municipales dans la région. On a été marqués par des élections à travers la province. Alors...
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elles ont pris fin vers le 18 octobre à peu près. Et c'est vrai que quand on parle de représentants comme Dan Williams, on est toujours à l'affût de savoir pour les municipales en région qui va être élu. Alors, si certains candidats ont été proclamés par acclamation, parce que c'est aussi un petit peu le problème, c'est d'avoir des personnes aussi qui ont envie de se présenter. D'autres ont été élus sans grande surprise. D'ailleurs, à Grande Prairie, hein, le taux de participation était assez bas, aux alentours de 21,70%. On le rappelle aussi que moins de 10 000 des 45 000 personnes qui auraient pu voter à cette élection n'y sont pas allées. La mairesse Jackie Clayton a été réélue de justesse avec 44,7% des voix contre 43,29% pour Eunice Prison. Et on sait que pour siéger sur des conseils municipaux ou être maire, des fois ça relève du sacerdoce. Et j'en avais d'ailleurs parlé avec certains anciens futurs conseillers comme Luc Lévesque de la municipalité de Smoky River, Normand Duval de Northern Sunrise, Edwin Stout de McLennan, pour parler justement de leurs expériences et des raisons de leur départ, car je disais, oui, assurer la relève, c'est tout un défi, hein.
Ah oui, ça c'est certain. Mais il y a eu d'autres aventures aussi avec les municipales aussi, là, moi je pense, mm-hmm. notamment à Peace River, où il y a eu vraiment là des candidats complotistes. Il y a eu toutes sortes de petits rebondissements de ce côté-là. C'est comme à Peace River, c'est la mairesse, c'est Mme Ellen Mainzer qui était mairesse adjointe, qui est maintenant mairesse de Peace River. Et fort heureusement, ce sont des candidats qui ont... pas complotistes, qui ont remporté les élections. Il y a eu quelques changements au niveau régional, mais somme toute, il n'y a pas beaucoup de changements. Et puis, on a de la misère à recruter des membres, des gens pour siéger sur les conseils municipaux, notamment dans le coin de Smoky River, quand on pense à Donnelly, à Fallaire, entre autres, là, qui ont dû demander des dérogations spéciales parce qu'ils n'avaient pas assez de représentants, assez de candidats pour remplir tous les postes de conseiller au sein de la municipalité. Alors, tu sais, c'est un problème de recrutement. C'est un problème de ce côté-là, c'est certain, là.
Oui, alors justement, quand on parle de recrutement, voire de relève, si on se... du côté, par contre, de l'immigration francophone, là, c'est un petit peu l'inverse, parce que dans le Nord-Ouest, il y a vraiment une main-d'œuvre qui est recherchée, notamment dans le secteur agricole. D'ailleurs, le volet de l'immigration, c'est quelque chose qu'on avait bien abordé durant la semaine de l'immigration. Et on le rappelle, le programme Mobilité francophone, c'est un accès direct pour les employeurs du secteur agricole. Pour eux, embaucher des francophones, ça s'est avéré un sacré avantage. Et quant aux futurs travailleurs, le Canada, justement, ça représente un endroit où on peut avoir une expérience tangible, et ça leur permet aussi de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est aussi l'un des aspects positifs de cette année, de faire connaître aussi que, oui, il y a une immigration qui est intéressée pour travailler dans le Nord-Ouest, dans ce secteur-là, Gisèle.
Donc, OK, c'est...
Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
Oui, on a fait pas mal le tour de ce qui s'est passé d'intéressant. Il y a beaucoup des fois, on a un peu l'impression là, qu'il n'y a rien qui se passe dans le Nord-Ouest, ça bouge beaucoup, tant au niveau politique qu'au niveau économique, au niveau de l'éducation, au niveau de donc, c'est des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis c'est...
C'est Il faut en parler.
Oui, il faut en parler, puis il faut pas. Il faut discuter de ces enjeux-là. C'est important. Il faut pas mettre la tête dans le sable et puis ignorer les problématiques qui font surface dans nos régions rurales éloignées, comme la région de Rivière-la-Paix. Alors, je te remercie beaucoup, Hélène, d'avoir pris le temps de discuter avec nous encore ce matin. Alors. Donc, on se reparle plus tard. Moi, je vais reprendre l'émission. À plus tard. Voilà.